Communauté de communes du Savès 32, une terre, un avenir.
Je me rappelle un petit meuble ici où il y avait donc toutes les cigarettes que vendaient mes parents. Et juste en dessous, il y avait un téléphone, ce qui était rare à l'époque. Et donc, mes parents avaient la cabine téléphonique. Donc,
les gens, c'était le téléphone du village.
C'était le téléphone du village. Les gens venaient ici pour téléphoner, pour passer leurs appels. Et je me rappelle avoir fait quelques courses, ce qu'on appelle les courses. C'est ce que, on recevait les télégrammes et je les amenais directement chez les personnes destinataires.
À la découverte de nos villages, belle-fille. Située au bout du Savès, cette commune peu peuplée se révèle cependant dynamique. Carte d'identité du village par son maire, Alain Sanséry.
Alors, Pelfig est le regroupement de trois communes, Oriabat et Villa. Bon, il ne reste plus que le village de Pelfig, qui compte 1281 hectares. Nous sommes actuellement 116 habitants. Nous avons des jeunes foyers qui se sont installés sur la commune et il nous reste deux terrains constructibles et viabilisés.
Donc, je suis éleveuse de collets à poils longs.
Aurélie Lucien.
Donc, je me suis installée sur Pelfig d'abord pour son environnement calme, serein et puis pour sa verdure. Je vais y agrandir une activité d'abord familiale. Et puis, j'espère faire plus grand par la suite.
Et vous n'avez rencontré aucune difficulté avec le voisinage parce que les chiens, c'est assez bruyant.
Non, justement, on a quand même beaucoup de champs autour. On a de l'espace et les premiers voisins sont à plus de 500 mètres. Donc, légalement, ça ne pose aucun souci.
On a trouvé sur Pelfig, suite à une annonce que j'avais passée parce qu'on cherchait à partir sur la campagne, sur un endroit calme.
Karine Lucien.
Et il s'est trouvé que donc, le propriétaire de la ferme nous a contactés. Et le lien est de suite passé avec lui, du fait qu'il aimait vraiment sa ferme. On a senti quelqu'un de très chaleureux qui voulait conserver les bâtiments. Et on est resté un bon moment au téléphone. Et après, suite à la visite, on a craqué complètement sur l'endroit. Et puis, on est vraiment décidé à rester ici.
C'est un endroit qui est très, très chaleureux. Quand à notre arrivée, on a été accueillis, mais les bras ouverts. Monsieur le maire a été très accueillant. Les voisins, pareil. Toutes les personnes qu'on a pu rencontrer dans ce village ont vraiment été fantastiques et nous ont aidés beaucoup dès le départ.
Dites-moi, double serrure dans cette église, pourquoi ? Craignez les voleurs ?
Non, mais on ne sait jamais. On avait décidé de mettre une seconde serrure pour mesure de sécurité, tout simplement. L'église domine le village, elle se situe à 300 mètres d'altitude, à côté du château. D'importants travaux ont été effectués dans les années 2000, notamment la réfection de la toiture, du plafond, des carrelages, de l'électricité, des vitraux. Et on a électrifié trois cloches sur quatre.
Alors, cette église a-t-elle un nom et est-elle encore ouverte au culte ?
Oui, elle est ouverte au culte et elle est sous l'égide de Saint-Antoine du désert.
Alors, il y a des modifications qui ont été faites à l'intérieur, mais avez-vous dit en aparté, pouvez-vous me préciser ces modifications ?
Alors, les modifications ont été apportées, c'était dans les années 1965, par là. Il y avait deux chapelles, Une a été conservée et actuellement elle fait office de sacristie. L'autre a été supprimée, ce qui est dommage parce que c'était quand même de très belles chapelles, mais je suppose qu'à ce moment-là, la municipalité de l'époque n'avait pas les moyens de pouvoir les entretenir.
Comment se fait-il qu'on trouve un casque de poilu dans la sacristie ?
Alors, je ne sais pas comment ce casque est arrivé dans la sacristie. Ce que je sais, c'est que la commémoration du 11 novembre de 8 mai se faisait dans l'église. Nous avons deux plaques commémoratives où sont marqués les noms de tous les soldats qui ont perdu leur vie pendant les deux guerres mondiales. Une devant la mairie, l'autre à l'église. Et lors des commémorations, les personnes qui préparaient l'église mettaient ce casque au pied de ces plaques. Voilà. Depuis, alors je ne sais pas la raison pourquoi nous n'avions pas de monument aux morts. Nous avons réparé un petit peu ce manque. Nous avons construit un monument aux morts en 2003. C'était quelque chose qui me tenait à cœur depuis mon élection en 1989. Nous n'avions pas de terrain pour pouvoir construire ce monument aux morts. Bon, il a fallu attendre 2003 et dès qu'on a pu, on a construit un monument aux morts qui représente bien le sacrifice de ces jeunes Pellefiguois qui sont tombés pour notre liberté.
Tout autour de l'église, le parvis, vous avez aussi entrepris des travaux très récemment.
Tout à fait. Alors, si ça a été entrepris récemment, c'est pour une raison toute simple, c'est que le bâti de l'église était communal, mais le terrain ne nous appartenait pas. C'était une particularité que nous avions dans la commune qui n'était pas très agréable. Le château s'étant vendu, avec les nouveaux acquéreurs, nous avons pu acquérir le tour de l'église et maintenant avons pu faire des travaux. C'est pour rendre l'église vraiment accessible, d'avoir un plat, une plateforme autour de l'église.
Vous m'emmenez voir le monument aux morts ?
Oui.
Ce monument aux morts, il y a un double monument aux morts, visiblement.
Voilà. Alors, le monument aux morts, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était quelque chose qui me tenait à cœur, mais bon, comme on n'avait pas le terrain, en 2003, on a réparé ce manque. Hein. On a construit le monument aux morts, et à côté du monument aux morts, il y a une stèle qui rend hommage aux veuves et orphelins des guerres. Hein. Je pense que c'était la première stèle dans le département. J'en avais discuté avec les responsables de la préfecture et on pouvait justement mettre une stèle à côté du monument aux morts pour rendre hommage quand même à ces femmes et ces orphelins qui ont beaucoup souffert pendant les guerres.
Donc là, on se promène dans le cœur du village, tout petit village.
Voilà, alors nous sommes sur la commune, nous avons 1280 hectares avec des maisons isolées comme on le voit le plus souvent dans nos milieux ruraux. Le village n'est pas très fourni, il y a 5 maisons, 6 avec le château, qui est un petit peu typique de ce qu'on peut voir dans les alentours.
Alors, parlez-moi un peu de ces demeures, parce que visiblement, certaines ont du caractère quand même. Hein, et autrefois, on y trouvait des commerces.
Tout à fait. La restauration des maisons du village a été. Les propriétaires ont fait de gros efforts pour les restaurer depuis 10 ans. Maintenant, elles sont toutes en très bon état. Très bon état. On y trouvait 2 épiceries, 2 cafés, un forgeron, une couturière. Enfin, il y avait tous les commerces dans le village, un charpentier aussi.
Alors, vous avez une immense salle des fêtes, je dis immense hein, par rapport à la taille de la commune. Pourquoi est-elle si grande et qu'est-ce qu'il y avait auparavant à la place de cette salle de fêtes? Parce que lorsqu'on rentre dans ce village, c'est ce qu'on voit en premier et ce qui domine avec un très grand parking.
Alors, il faut savoir qu'en 1989, quand j'ai été élu avec la nouvelle équipe, il n'y avait pas de salle des fêtes. La fête se faisait sous le préau de l'ancienne école. Ce qui était quand même assez dangereux. Et nous avons décidé de construire une salle des fêtes, mais le problème, c'est que nous n'avons pas de terrain.
Alors, je vous interromps. Cette ancienne école, où se trouvait-elle et quand a-t-elle fermé?
Alors, l'ancienne école est actuellement, c'est la salle du conseil municipal dans la mairie. Voilà. Et elle a fermé en 1965. faute du nombre d'élèves. 20 ans après, on aurait pu la rouvrir parce qu'il y avait un nombre suffisant d'élèves, mais c'est un petit peu par la fluctuation des enfants, c'est un peu par génération. Et il y a, quand on a des jeunes foyers qui arrivent, bon, on a les enfants. Et après, forcément, les enfants eh bien, partent dans les écoles, travailler. Et cette famille se retrouve juste avec le père et la mère.
Alors reprenons sur cette salle des fêtes. Donc, vous désiriez une salle des fêtes. Et pourquoi l'avez-vous construite à cet emplacement, à l'entrée du village ?
Alors, il a fallu qu'on trouve un terrain. On a réussi à ce que le propriétaire nous vende juste l'emplacement de la moitié de la salle des fêtes actuelle. On l'a construite en 1986 avec le bénévolat de la commune. À part la pose de la charpente, tout le reste a été fait par les mains volontaires de la commune.
C'est un chantier qui a duré combien de temps ?
Alors là, je ne me rappelle pas trop, mais ça a duré une bonne année.
Ouais. Alors pourquoi est-elle si grande ?
Donc, quand on a eu des manifestations, on pouvait être autorisé pour 150 personnes et on se retrouvait à plus de 200 personnes, ce qui était quand même dangereux. Alors, en 2007, nous avons souhaité remettre cette salle des fêtes aux normes actuelles de sécurité. Et on en a profité pour la doubler.
Vous pourriez même en faire une salle de concert.
Ah, mais oui. Et elle est utilisée très souvent. Elle est retenue d'une année sur l'autre pour des mariages.
Et c'est une source de revenus importants pour la commune ?
Alors, bon, revenu important, on ne peut pas dire que c'est un revenu important, mais ça met de l'animation dans la commune. Et moi, j'estime que la salle des fêtes dans nos milieux ruraux, une petite commune, c'est le cœur de la commune, tout simplement. Alors, sur la commune, nous avons trois associations, le comité des fêtes, le foyer rural et la société de chasse. La société de chasse, elle regroupe deux communes, Pellefigue et Saint-Élix. Les activités du comité des fêtes, elle a fête locale le premier week-end de mai. Et le loto, le dernier ou début fin novembre ou début décembre, suivant les dates.
Le foyer rural de Pellefigue a été créé le 22 décembre de 1993.
Michel Persoglia.
Il a été créé par un ancien président du comité des fêtes, qui bien sûr à ce jour malheureusement est décédé, mais bon, ce jeu a très plu sur la commune, il était pour animer la fête locale, et ensuite nous avons décidé de continuer ce jeu, mais en essayant d'aller un peu plus fort, et en essayant d'en faire un sport à part entière, puisque cela commençait à exister déjà.
Alors, c'est la seule activité du foyer rural de Pellefigue. Combien comptez-vous de joueurs ?
Alors, actuellement, le foyer rural comporte 36 joueurs. Exactement. Bon, ça varie d'une année à l'autre. L'année dernière, nous étions 32. Cette année, nous sommes 4 joueurs de plus. Il y a une dizaine de féminines. Et le reste, ce sont des adultes d'un certain âge, plutôt plus âgés que trop jeunes. Malheureusement, ce qui nous manque, ce sont des jeunes. Et c'est pour ça que nous avons pris la décision, bien sûr avec la communauté commune qui nous aide énormément, qui nous a branché un peu là-dedans, de faire les TAP dans les écoles, en espérant un jour que peut-être nous en retrouverons sur les terrains de quilles. C'est ce qu'on espère.
En compagnie de Michel Persoglia qui nous parle plus en détail du jeu de quilles.
Je remarque que vous m'avez sorti un magnifique jeu de quilles. Vous pouvez m'expliquer un petit peu les règles ? Parce que moi je pensais que les jeux de quilles c'était une boule, mais non, visiblement ce n'est pas une boule dans le sud-ouest.
Alors le jeu de quilles, c'est un jeu très ancien, puisque ce jeu de quilles, paraît-il qu'on aurait trouvé dans les pyramides d'Égypte des traces de jeux de quilles. Donc ça date de très longtemps et il paraît que pendant la guerre de Troie, pendant qu'Ulysse était au combat, Pénélope s'adonnait au jeu de quilles dans la cour du château avec ses 108 prétendants. Alors bon, mais ce jeu est venu, était un jeu et il se jouait à l'argent sur les terrasses de café, dans les cours des villages. Et en 1956, il y a une personne qui a tellement misé de l'argent qu'elle a misé son unique paire de bœufs. Son unique paire de bœufs, à l'époque, en 1956, cela représentait un grand tracteur de maintenant. Et vu cette mésaventure, le préfet de l'époque a interdit le jeu de quilles. Et ce jeu de quilles ne se pratiquait plus. Et ce n'est qu'en 1972, par l'intermédiaire des foyers ruraux du Gers, que ce jeu de quilles a été relancé. Mais uniquement avec une petite mise de 3 euros par équipe, ou en France, c'était peut-être à l'époque, et c'était minime. Et disons que cet argent est redistribué pour les gagnants. Et puis en 1993, nous avons décidé justement d'en faire un sport à part entière et nous nous sommes affiliés avec le bowling et le sport de quilles. Donc, ce qui comporte le règlement, comme tout sport, d'une licence. Et avec un règlement et bien sûr une discipline à respecter, des quilles réglementaires. Puisque les quilles se font quand même, ce sont des quilles qui sont 50 cm, les petites quilles de devant, les grandes qui font 55 à l'arrière, et ces quilles sont placées d'axe à axe à 30 cm. Le pas de tir, d'où la personne tire, se situe à 10 mètres des quilles. Et le but du jeu, c'est avec un maillet, ou deux maillets, ou trois maillets, le but du jeu, c'est de faire tomber 5 quilles. Il faut qu'il reste une quille debout pour marquer un point. Les parties se jouent en 11 points. Et le premier arrivé à 11 points, c'est celui qui gagne donc, au nombre de tirs égaux.
Comment se fait-il qu'on ne trouve pas plus de clubs de jeux de quilles dans le Savès ? Vous êtes les seuls ?
C'est vrai que dans le Savès, et c'est pour ça qu'on essaye un petit peu d'étaler. Il y a beaucoup de personnes, je suis très demandé, d'ailleurs nous sommes très demandés pour les fêtes locales, pour amener ces jeux, notamment à Saramon le lundi de la fête, où il y a beaucoup de personnes d'ailleurs qui jouent, des non-licenciés, des joueurs, ça nous fait tellement plaisir que même j'ai décidé de faire un concours amateur pour que les gens du village s'amusent entre eux, et un concours licencié en parallèle.
Parlez-moi un peu du village. Vous êtes né ici ? Êtes-vous né à Pellefigue ?
Alors non, je ne suis pas né à Pellefigue. Moi, je suis venu pour me marier à Pellefigue. Mais j'ai tellement trouvé ce village très, très attirant. Et je trouvais qu'il y avait quelque chose à faire au niveau d'animation pour intéresser les gens. Parce que dans ces petits villages, nous savons très bien que nous ne pouvons pas nous payer des grandes attractions. Alors c'est pour ça, ce jeu m'a donné quelque chose, l'idée de le faire fonctionner beaucoup en tant que fête locale ou animation quelconque.
D'abord, j'ai participé au comité des fêtes en tant que membre.
Delphine Lassus.
Depuis 2 ans, donc maintenant je suis présidente, vu qu'il manque quand même il n'y avait plus personne pour s'en occuper. Donc monsieur le maire avait fait passer un mot pour savoir qui souhaiterait reprendre la tête du comité des fêtes. Et donc, je me suis présentée et du fait, je suis passée présidente avec toute mon équipe. Donc, moi, ça me fait plaisir du moment que tout le monde s'investit. Et justement, cette année, il y avait plein d'idées. On a fait les gyropodes, on a fait aussi le concours d'épouvantail. Et du coup, tout le monde s'est investi. On avait préparé un épouvantail à la maison qu'après, on a mis aux 4 coins... aux 4 routes en bas à Pellefigue. Du coup, cet épouvantail appelait tout le monde à en faire, chacun de son côté. Et ça a pris, la mayonnaise a pris, et du coup, on a eu une belle fête avec une dimanche après-midi joyeux où tout le monde a pu venir, aussi bien les petits et les grands.
En quoi est-ce important de maintenir des activités dans un village comme Pelfig ?
Ça permet de, pour moi, la fête, c'est la vie, quoi. C'est la vie d'un village. Tout le monde se retrouve à ce moment-là. Si maintenant, on est une société de plus en plus individualiste, s'il n'y a pas des personnes comme nous pour maintenir la fête, pour moi, on ne se regarde même plus. Alors qu'au contraire, ce village, c'est ça. C'est tout le monde, quand moi je vais au village, je vois Yves, je vois Liliane, on rigole, on discute, vous Patrick, tout le monde. Et y a vraiment, on a besoin de maintenir ces moments de rencontre entre nous. Voilà.
Rencontre à présent avec Romain Stigliani, jeune éleveur de Cunu, qui vient d'ouvrir une unité de méthanisation.
Donc on a commencé le projet il y a maintenant 5 ans. On avait fait en fait un projet photovoltaïque, donc en produisant de l'électricité à partir de panneaux solaires. Et ça nous plaisait bien de produire des énergies renouvelables, donc on s'est dirigé vers la méthanisation. Et en fait, pourquoi vers la méthanisation ? Parce qu'il y a deux choses qui sont essentielles. La première, c'est la maîtrise des intrants, donc ce qu'on donne à manger au méthaniseur pour produire l'électricité. Et la seconde, c'est ce qui sort de la méthanisation, car il sort une matière qui s'appelle le digesta. Et ce digesta, c'est comme du compost et il faut l'épandre. Donc rien de mieux qu'un agriculteur pour produire ces matières et pour les épandre, car on a la surface agricole adéquate pour les épandre. Les matières utilisées pour la méthanisation sont 100% d'origine agricole, donc ce soit des fumiers ou des lisiers ou des matières végétales. Il n'y a pas de bout de station d'épuration ou de déchets d'abattoir ou de n'importe quelle autre matière. Ce sont des matières, on va dire, assez vertes et non sensibles. Et après, des déchets occasionnels qu'on nous propose, par exemple des déchets d'usines d'aliments ou des déchets de céréales d'autres coopératives. Toutes ces matières, on fait une sorte de recette. Elles sont mises dans le méthaniseur tous les jours. On a une trémie à remplir. Donc c'est du lundi au dimanche tous les jours, c'est comme un élevage. Ces matières méthanisent à peu près, donc le process dure environ 45 jours. Donc les micro-organismes dégradent la matière et ça produit un gaz qui est appelé le biogaz. Ce biogaz est composé de méthane et de CO2. Et ce biogaz est consommé ensuite par un moteur qui a une puissance de 929 kW. Et ce moteur produit deux sources d'énergie, de l'électricité, donc pour 929 kW de puissance, qui est injecté sur le réseau ERDF, enfin Enedis maintenant, et donc vendu à EDF avec un contrat d'achat de 20 ans. Et une seconde partie pour environ entre 700 à 800 kW de puissance thermique, donc de la chaleur sous forme d'eau chaude. Cette chaleur, elle est utilisée pour l'instant sur trois sources de valorisation. Donc la première, c'est on chauffe les bureaux et on chauffe le process en entier, parce que le process est chauffé à 38 degrés. Alors pourquoi 38 degrés ? Parce que en fait, on reproduit le métabolisme d'une vache, et la panse d'une vache, sa température, c'est 38 degrés. Donc c'est pour ça que les matières sont dégradées à 38 degrés. Donc seconde valorisation de chaleur, le chauffer le process, et troisième valorisation de chaleur, on sèche des semences de mi-août à mi-octobre. Donc avec de l'eau chaude, on a un radiateur donc, qui souffle de l'air chaud du coup, pour sécher des semences pour l'usine Syngenta à Lombès.
Natif du village, Yves Passerieux est revenu vivre à Pelfig après avoir bourlingué. Ce chef d'un orchestre de variété nous offre une plongée souvenir dans la maison de son enfance.
Alors effectivement, dans cette maison où j'ai eu le plaisir de vivre pendant quelques années, cette maison...
Et où vous vivez toujours.
Et je vis à nouveau depuis 2003. Ici, cette maison a une histoire. Effectivement, dans une partie de la maison, il y avait un bar... Dans cette partie droite, dans la partie gauche, puisque cette maison était divisée en deux parties, dans la partie gauche, c'était un forgeron qu'il y avait ici, et il paraîtrait qu'à l'étage, ça serait une couturière. voilà, qui habitait en face juste devant chez nous, il y avait une épicerie qui était tenue par une dame qui s'appelait Madame Bourgade et que tout le monde appelait Tata. La maison à côté était habitée par le secrétaire de mairie. En face, s'il s'agit du presbytère, où vivait une dame que j'ai eu le plaisir de connaître pendant très très longtemps, pas de longues années. En face, juste à côté, c'était habité par un monsieur qui s'appelait Émile, et donc ça reste pour moi un très vague souvenir. Je ne peux pas vous dire exactement ce qu'il faisait, je ne me rappelle plus. Et qu'est-ce que je peux vous dire encore? Dans cette maison, effectivement, il y avait un restaurant. Voilà, il y avait un restaurant dans cette maison tenu par ce monsieur Émile. Voilà, puis après dans la mairie qui a été mairie pendant longtemps, mais qui avant était l'école du village. Et juste derrière l'école, il y avait un préau, une espèce de petite salle qui était à l'époque l'ancêtre de la salle des fêtes, qui était un tout petit réduit, je me rappelle, avec un plancher toute petite. Et c'est là où j'ai fait mes premières armes en musique, puisque je crois que je devais avoir 14 ans. Où c'est là où je suis monté pour la première fois sur scène avec mon saxophone.
Votre retour sur terre, entre guillemets, s'explique aussi parce que vous avez une autre profession. Vous travaillez la terre.
Alors oui, alors on peut dire ça. Disons que je bricole parce que je suis au milieu de véritables agriculteurs qui sont de vrais, mais j'ai une petite parcelle, oui, de 7 hectares sur laquelle il me plaît de jouer à l'agriculteur. Et donc je fais de la culture bio, voilà, céréalière. Et donc voilà, c'est pour moi aussi un petit échappatoire. C'est aussi une possibilité de me retrouver un petit peu dans mes racines, puisqu'il s'agit de mes racines gersoises, mais aussi de mes racines de par la terre, puisque c'est une terre qui a appartenu à mon papa.
Et vous avez aussi un don caché.
Je ne vois pas sur lequel vous voulez faire... Ah oui, oui, alors il s'agirait peut-être de ce don que j'ai, qui m'a été donné, il m'a été donné effectivement la possibilité de soigner des gens. Oui, je suis magnétiseur.
Et vous exercez vos talents sur Toulouse ou vous exercez ici même dans Appelfig?
Alors, j'exerce à qui en a besoin, tout simplement. C'est sur le moment. C'est quelqu'un qui a mal à la tête, je n'ai pas mal de tête, quelqu'un qui a mal de ventre. C'est du spontané, c'est totalement désintéressé et c'est surtout le plaisir de faire du bien.
Comment voyez-vous l'avenir de votre village?
Oui, je suis optimiste pour l'avenir. Car nous avons augmenté notre population de 50% en quelques années. De plus, les maisons secondaires sont venues des résidences principales, ce qui prouve un attrait pour notre commune. Nous avons la possibilité également d'accueillir de nouvelles familles. Nous avons des terrains viabilisés. Aujourd'hui, on peut constater que de nombreux foyers recherchent un cadre de vie apaisant, calme, où l'on respire de l'air, qui ne connaît pas la pollution des grandes villes. Nous avons également des points de vue remarquables, une vue sur le lac, sur les Pyrénées, sur la chaîne des Pyrénées. De plus, dans peu de temps, la route nationale 124 Auch-Toulouse, dont l'entrée de l'échangeur sera tournée sur la départementale 12, la vallée de la Gimone, et par conséquent à quelques minutes de notre commune. Toulouse sera moins de 45 minutes de notre village. Ce sera un atout important pour accueillir de nouvelles familles qui seront les bienvenues.
C'était dans la série Nos Villages, Pelfig, une émission produite et réalisée par Nicolas Héry pour la communauté de communes du Savès 32, avec, en ordre d'apparition, Yves Passerieux, Alain Sanséry, Aurélie et Karine Lucien, Michel Persoglia, Delphine Lassus et Romain Stigliani. Merci au maire Alain Sanséry et à son conseil municipal.